R22, tout le monde. R22, antenne, tout le monde. Radio Brouhaha.
Alors bonjour à toutes et à tous, merci donc d'être là pour cette nouvelle séance du Festival Extra qui a commencé il y a 2 jours et on va avoir le plaisir de passer presque 3 heures avec Radio Brouhaha, 2 heures avec Radio Brouhaha. Nos invités en parleront, mais je vais en dire quelques mots. Avant, je voudrais juste redire un peu à tout le monde dans quel contexte en fait on se trouve avec ce Festival Extra qui en est à sa 7e édition et qui entend montrer, promouvoir, et mettre en valeur toute quantité de manières pour la littérature d'exister. Ça peut être évidemment dans les livres, ça peut être beaucoup dans le Festival Extra hors du livre, d'où son titre hein, d'extra livresque par exemple, d'extra territorial. Et ça peut être aussi une manière pour la littérature de se porter dans des écrans. Vous avez à côté, dans des 2 salles latérales, vous avez là un vidéo-poème de Miel Pagès et ici un magnifique double remake de Hiroshima Mon Amour et de l'année dernière à Marienbad, que je vous recommande absolument, qui a été un peu la matrice de la programmation du festival. Et ici, on est dans le salon littéraire du Festival Extra. C'est le foyer hein, du festival. C'est ce salon qui a été confié depuis maintenant plusieurs années à un duo d'artistes belges, enfin franco-belges, qui s'appelle Deborah Baumann. Ils ont pris ce nom de fiction, qu'ils ont d'ailleurs emprunté à leur professeur d'anglais. Et donc ce nom de fiction, ben voilà, c'est une bonne manière aussi d'être littéraire. Et au fond, ils ont conçu à la fois le mobilier sur lequel vous êtes assis et assise, et puis aussi les peintures. Et donc, voilà, on est dans leur salon et on est dans le salon du foyer du Festival Extra. L'idée du salon littéraire, c'est, vous savez que le salon, et on avait parlé avec Lionel Ruffel dans d'autres Radio Brouhaha précédents, c'était le haut lieu de la socialité culturelle, de la sociabilité littéraire notamment, dans l'Ancien Régime. Et donc, c'était l'idée de revenir dans la forme du salon littéraire, mais un salon littéraire contemporain, avec des performances, avec des micros, avec des écrans, avec une scène, voilà, où on y entend évidemment des choses tout à fait différentes, mais qui perpétuent une histoire assez ancienne aussi de la sociabilité littéraire. Alors donc, voilà, ça c'est pour le contexte général du Festival Extra, et puis dans lequel il y a aussi beaucoup de choses, un téléphone rouge avec une création littéraire de Wendy Delorme, bref, il y a beaucoup de choses à voir et à écouter. Et puis là, on a vraiment le plaisir, moi j'ai un immense plaisir tous les ans à faire revenir Radio Brouhaha. C'est avec Lionel Ruffel, parce que Lionel a été universitaire, professeur à Paris 8, qui a cofondé le master d'écriture de Paris 8. C'est vraiment, on a eu un dialogue avec Olivia Rosenthal, à plusieurs reprises, autour de ces questions de littérature hors du livre. Ça a été vraiment un des vrais lieux d'inspiration du Festival Extra. Et moi, je suis très heureux que Lionel Ruffel revienne avec Radio Brouhaha, en partenariat avec R22 à Radio Tout le Monde, pour un moment de réflexion, un moment théorique et pratique sur la littérature aujourd'hui, sur où on en est, effectivement, de la littérature et de son extra dimension. Et puis, Lionel a eu la très heureuse idée de solliciter Laura Tinard, que j'avais déjà conviée au Festival Extra l'an dernier, mais elle était finalement partie en Californie. Et on est ravis de la voir de toute façon revenir. Elle le sait et je suis ravi que vous fassiez comme ça un tandem avec vos invités, qu'on est tout aussi ravis d'accueillir. Mais je vous laisse la place. Merci beaucoup et bon Festival Extra à tout le monde.
Merci. Ouais, on est bon. Merci Jean-Max de cette présentation. Et comme tu l'as dit, Radio Brouhaha, on fait presque partie des meubles du Festival Extra maintenant. On était là déjà à la première édition et on revient presque tous les ans. Et quand je me suis aperçu de ça cette année, je me suis dit mince alors, je dis toujours on, nous, alors que depuis plusieurs années, je suis un peu seul à concevoir et animer les émissions. Donc cette année, fini les amis imaginaires. J'ai décidé d'avoir une vraie amie à côté de moi. Je renouvelle, non pas les meubles, puisque je dis qu'on fait partie des meubles, mais on renouvelle la formule. Et donc on va dire nous, à deux, Radio Brouhaha, c'est avec Laura Tinard, comme tu l'as dit, qui est écrivaine, performeuse, mais aussi, et c'est nécessaire pour cette émission, théoricienne. Elle a aussi été curatrice de manifestations littéraires, notamment à Bruxelles. Le principe, c'est toujours le même, travailler le littéraire comme phénomène artistique, social, matériel, imaginaire, en relation avec l'orientation du festival. Et cette année, l'orientation du festival, elle travaille le cinéma, les genres, les pratiques qui superposent les pratiques artistiques. Donc on aura un premier volet consacré à ces questions-là, et puis on aura un deuxième volet à 17h sur ce qui me préoccupe, mais préoccupe pas mal de monde aujourd'hui, et dont à nos yeux, on ne parle pas assez, c'est l'imaginaire de la blancheur, voire l'imaginaire racial de la littérature française. Et donc on aura deux temps, Laura va mener le bal pour le premier temps, et puis je mènerai le bal pour le second temps. À toi, Laura.
Merci Lionel de m'avoir invité à te rejoindre à la Radio Brouhaha. Merci aussi à Jean-Max Collard, évidemment.
Amore? Perfetto, andiamo.
Et à toutes, j'ai demandé à ChatGPT, pour le mettre à l'épreuve, de me donner une définition du roman spatial. On écoute la définition lue par le robot Amélie.
Le roman spatial est un genre littéraire qui se situe dans le contexte de l'espace et des voyages interplanétaires. Les thèmes courants incluent l'exploration de nouvelles planètes, les rencontres avec des civilisations extraterrestres et les avancées technologiques.
Merci Amélie pour la lecture, mais tu lis un peu trop vite. Et ce n'est pas exactement ce que j'ai en tête quand je pense à roman spatial. Bien qu'il soit question d'objets littéraires qu'on pourrait qualifier d'OVNI et de pratiques artistiques satellites. Alors, qu'est-ce que j'entends par roman spatial ? C'est la construction du roman par la pratique de l'art, bien sûr. Nous dirons qu'il y a deux espèces d'auteurs. Il y a ceux qui veulent que le monde ou une infime partie de la vie soit contenue dans un objet, dans le livre. C'est un des grands fantasmes de l'écrivain, de l'écrivaine ou même de l'encyclopédie. Et puis, il y a les autres auteurs, auteurices, qui veulent non seulement que le livre contienne le monde, mais que la fiction, les personnages sortent du livre, débordent, fuient, se déploient dans l'espace. Et pour ça, ces auteurs-artistes vont user de tous les médiums possibles. Vidéo, installation, performance, dessin, parfois même les médias, la radio, la télé, articles de presse, tout y passe. Les œuvres spatiales sont protubérantes et aspirent à l'ubiquité. Pour le lecteur, spectateur, c'est déroutant. Parfois, c'est difficile de rassembler toutes les pièces de ces œuvres disparates. Dès lors qu'on pense avoir posé la main dessus, l'œuvre se dérobe, s'efface, se métamorphose. Elle nous emmène ailleurs, à des années-lumière, dans le virtuel ou sur d'autres continents. Peut-on saisir, attraper l'entièreté de ces œuvres mouvantes, dont le caractère fragmentaire et leur inachèvement tend vers l'infini des possibles et des formes? D'ailleurs, quel est le but des créatrices? Cherchent-elles à nous perdre, nous faire courir, nous rendre fous? Que ces œuvres aient été pensées aujourd'hui ou un siècle avant, sommes-nous véritablement prêts à les recevoir? Sommes-nous autant prêts à recevoir pleinement le premier roman multiforme d'Eugénie Zélie, Thune, Amertume, Fortune, que le dernier livre de Virginia Woolf, incarné par Mathieu Blon? Prêt ou pas prêt, on y va. Bienvenue Eugénie Zélie et Mathieu Blon dans le vaisseau de la radio Brouhaha. Bonjour Eugénie Zélie.
Bonjour Laura Tinard.
Tu es autrice, artiste. Tu t'occupes de la direction éditoriale de la revue C'est les vacances. Tu as publié ton premier roman, Thune, Amertume, Fortune, paru en 2022 aux éditions du Burnout. Tu m'as dit que c'était spécialement important pour toi de publier ce roman dans cette maison d'édition. Alors, comment elle fonctionne, cette maison du burn-out?
En fait, j'avais des préoccupations de crevard. C'était pas du tout que c'était spécialement important. C'est qu'ils m'ont contacté et ils étaient positionnés politiquement à un endroit qui me plaisait. Ils allaient pas. Et ils me faisaient confiance. Et voilà, moi j'avais besoin de ça. Et enfin, initialement, ils m'ont contacté pour un texte sur le travail salarié. Et comme j'avais passé tout mon temps à éviter le travail salarié au prix d'un certain nombre de choses, c'était pas du tout le sujet que j'écrive ce texte. Et en fait, j'avais. Un an après cette proposition, j'ai commencé à écrire Thune, Amertume, Fortune. Et j'ai proposé le premier chapitre, puis le deuxième. Et puis on a fait un livre, quoi. Voilà.
Et comment elle fonctionne, la maison d'édition?
C'est une maison d'édition indépendante. Elle fonctionne très bien.
Est-ce qu'il faut être en burn-out?
Non. Au contraire.
Ce roman, c'est un objet assez particulier, puisqu'on trouve pas que du texte, il y a aussi des photos de toi ou de tes personnages, des photos d'espace, d'objets, des dessins, qui accompagnent l'histoire, qui est la suivante. Eva Sieg est une jeune femme dans une situation précaire. Ses amis ont des vies rangées, mariées, pavillons, enfants. Mais Eva Sieg a d'autres préoccupations. Elle attend la révolution. Elle va consulter une voyante pour savoir si le monde va changer. Est-ce que tu penses que la littérature a un pouvoir de prédiction? Si tu écris que la révolution a lieu, penses-tu qu'elle arrivera?
En fait, j'ai commencé à écrire ce livre en 2019. et le monde a changé, et moi aussi. Après, non, je crois pas que... je crois que si un storytelling, ça fait élire un président, un storytelling, ça fait aussi des... Enfin, voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer cette question... qu'est-ce que ça fait, là en ce moment j'écris une performance dont un des nœuds est c'est beaucoup plus ennuyeux de faire d'écrire un roman que de faire le storytelling d'une idéologie. J'en étais pas là à ce moment-là. À l'époque, je voulais représenter un récit qui pose la pauvreté ou la précarité comme un contexte, qui ne pose pas cette précarité comme une sorte de vérité générale sur les pauvres, ou qui me fasse pas de moi la représentante des bouseux blancs. L'idée, c'était d'écrire ce texte qui soit une variation sur des personnages et où le jeu circule à travers des personnages, c'est-à-dire où la question de celle qui habite le pavillon, celle qui prédit l'avenir, celle qui est la coach sportive, celle qui tue... et celle qui se contente de décrire ces choses sont des occurrences les unes des autres. Et je ne sais pas si je réponds à ta question.
Oui.
Voilà.
C'est comme tu veux. Est-ce que tu écris pour le futur, voire pour une future espèce, une nouvelle planète ? Je crois qu'on aimerait bien être transporté ailleurs au plus vite, il fait trop chaud.
Non, à ce moment-là, j'écrivais pour me réparer. Donc, j'écrivais pour le passé, en fait. Non, je pense que j'écrivais pour voir si on pouvait réfléchir dans la forme d'un roman. Ce qui est ma préoccupation, c'est est-ce qu'on peut dire quelque chose. Parce que c'est une certaine façon de se situer, la fiction, les personnages, c'est une certaine façon de prendre en charge, de prendre ses responsabilités. De incarner les situations telles qu'elles sont vécues sans complaisance. Donc, non, j'écrivais pas tellement pour le futur. Et en même temps, parce que j'ai un regard assez critique sur ce texte maintenant, donc. J'écrivais par contre avec une certaine conscience qu'un texte est relu et qu'il s'écrit aussi au regard de préoccupations dont on n'a même pas idée quelles seront les façons dont les personnes plus tard les liront. Et donc, du coup, comment est-ce que ce texte pouvait supporter le temps qui passe et la multiplicité des lectrices, quoi. Est-ce que, et donc, dans une sorte de... Oui, le rapport à l'avenir, il était là, dans une sorte de... essayer de prendre en compte un... d'électorats divers, avec des vies diverses.
Eva Sig vit dans la précarité. Est-ce que tu penses que pour mener la vie bonne, il faut nécessairement de l'argent ?
C'est-à-dire que j'ai pas du tout vécu une vie d'adulte avec de l'argent. Moi, je viens des classes moyennes, de la France rurale, voilà. Donc, est-ce que vie bonne est... Ouais, bah, j'imagine, enfin, ça doit être cool d'avoir de la... Du coup, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que j'essayais de représenter, c'était un certain type de arrangement avec comment une situation... Enfin, comment un contexte, c'est aussi un réseau de formes et comment ces formes portent en elles, sont vectrices d'émancipation à toutes sortes de points de vue, sur le plan poétique, sur le plan politique, sur le plan... sur le plan individuel et au plan général et... Comment est-ce que c'est... À un moment donné, dans le texte, je décris la maison, etc., son insalubrité, etc. Et je dis un truc du genre, on était heureux. Bon, c'était un peu le truc de dire... Et puis oui, de pas en faire une description de ce que serait la vie... Enfin, c'est un type spécifique de pauvreté. Ça n'a pas de... Ça n'est pas... qui est décrit dans le livre, qui est pas une fiction, qui était ma situation. J'essayais d'être le plus spécifique possible, en fait. J'ai eu l'impression que plus je serais spécifique, moins je serais... Je dirais n'importe quoi. Voilà.
Eva Sig a incorporé le genre féminin. C'est presque une défaite. Ça a été fait de force dans son enfance. Et finalement, en grandissant, elle voit ça comme une force... une résistance, puisqu'elle peut s'allier à d'autres femmes. Andrea, l'autre personnage, s'en sort différemment. Elle est une figure de style. une hyperbate. On t'écoute ?
Ah, on m'écoute. Je lis ?
Ouais.
Allez, je lis. Une entourloupe avec personne et personnage. Le temps qu'Eva arrive finalement chez Noz, on aperçoit Andrea devant le bac. Eva, anxieuse, décide d'aller chez Noz. Ça prend du temps de regarder chaque objet minable, de chercher un trésor, de chercher les objets qui translatent des morceaux de la réalité. Trésor ne convient pas, richesse accumulée et cachée soigneusement. Elle aperçoit au loin un bac semblant comprendre une bouée en forme de flamme bleue transparente, un grand verre fissuré circulairement dans son centre, à peu près, un faux coquillage encadré, nommé, décrit et toutes sortes de ces choses. Andrea se tient devant le bac. Ils ne devraient pas tous, les objets, être tellement pleins. Eva espère me rencontrer, c'est son caractère. Elle essaie de retrouver ce mot. Hier est la seule chose qu'on partage. Hier n'a pas encore eu lieu, je suis une image, pas l'image d'une chose, pas sa représentation, non, une image. J'ai le souvenir d'après-midi à ne rien faire, je baille sur ces après-midi. Je suis un type d'image qui s'adapte à son contexte. Mon nom est, ce que je suis varie. L'effet que je produis également. Ici, image moyenne. Je suis celle qu'attend Eva. Je consiste en la prolongation de ce que l'on croyait terminé par ajout d'un élément qui, se trouvant ainsi déplacé, produit une translation de sens. Je suis perçue comme une possibilité du langage, la petite femme musculeuse, sa colère et sa tristesse toutes contenues quand elle enchaîne les pompes, un défaut essentiellement. Andrea dit « Je n'arrive pas à me souvenir d'une rencontre qui me servirait de modèle pour t'adresser la parole. »
C'est quoi une hyperbate ?
C'est une rupture de sens à la fin. En fait, c'est une figure de style qui est habituellement perçue comme un défaut littéraire, comme une espèce de licence poétique merdique. Et en fait, j'ai remarqué en lisant la définition d'hyperbate que j'en faisais beaucoup. Et que c'était même une sorte de... Enfin, la manière que j'avais de représenter le réel ou une certaine perception du réel. Donc, du coup, Andrea, qui est celle qui tue Eva... Et qu'elle soit une hyperbate et que ce soit, et que dans le chapitre 5, il y ait cette question de, en fait, la révolution est juste une chose qu'on dit. Enfin, une chose qu'on dit, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça à ce moment-là, mais on est, enfin, disons que faire se regrouper des considérations narratologiques avec des considérations politiques me semblait justifiées à ce moment-là, quoi.
Tout à l'heure, j'ai l'impression que t'as un peu buggé quand je t'ai parlé du genre d'Eva Sieg.
Oui, alors cette question, ouais. Pff. En fait, c'est la question de l'identification qui m'intéresse. C'est la même chose pour cette histoire de contexte, de produire... J'essaie, le personnage d'Eva et le personnage d'Andrea étaient censés aussi réfléchir à cette question de l'identification, de l'identité, en fait de la qualité de personnage et de la question de l'identité à travers pareillement un spectre narratif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un personnage ? Et est-ce que dire quelque chose d'un personnage permet de dire quelque chose d'une personne, permet de développer une pensée à propos de comment se construit une identité et comment aussi on se situe en tant que personne qui écrit. Parce que bon, je crois que tu viens dans les questions à la question méta.
Dans ton travail, tu fais exister le roman sous plusieurs supports, vidéo, sculpture, dessin numérique, qui s'inscrivent dans différentes réalités virtuelles et espaces d'exposition réels. Quelle expérience cherches-tu à produire chez le spectateur, le lecteur ?
En fait, c'était plutôt... En fait, initialement, c'est également une préoccupation un peu de Crevard qui cherche à être comprise, c'est que je me disais, pas tout le monde lit. Donc si pas tout le monde lit, il faut que je puisse... Il faut que mon travail puisse exister de toutes sortes de façons pour qu'il y ait toutes sortes d'entrées. Et donc, il y a du dessin, et donc il y a des objets, et donc il y a des films. Et c'est la raison pour laquelle aussi le PDF du livre est disponible sur Internet gratuitement. C'est la raison pour laquelle les vidéos sont disponibles gratuitement, etc., etc. Tout est... Et c'est aussi la raison d'une forme de développement d'encore une autre forme de, si on veut, littérarité sur les réseaux sociaux aussi, je dirais.
On va écouter un extrait d'une de tes vidéos.
Il y a comme une odeur de fleurs, la lèpre.
Je fais avec. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que je peux.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de moi ma maison. Je ne sais pas si j'ai tort, mais tout le film part d'un air entendu il y a longtemps. La première chose que j'ai montée, c'est la musique arrangée avec les images. D'ailleurs, j'ai réécrit 3 ou 4 fois la voix parlée. C'est pas par hasard, je n'étais jamais contente. Ce qui m'enchantait complètement chez elle, c'était la musicalité de sa voix.
Le jour vient.
Je tenais à une ponctuation presque déponctuée. J'ai cassé la ponctuation pour donner une autre musicalité que celle parlée, disons un peu bavarde.
Sur les talus, ces taches sombres, les gens.
Tu viens de dire donc que le PDF est accessible gratuitement, que tout est accessible gratuitement, donc c'est hors circuit économique, toute cette production ?
Si, le livre aussi à vendre en librairie.
D'accord.
Non, les éditions Burnet, c'est aussi une raison, je ne les ai pas choisies pour ça, mais c'est une chose à laquelle j'étais sensible, au fait que on vende des livres et on les donne. Et qu'il y ait une question de aussi pouvoir développer que ma littérature circule de façon pirate.
Ouais. Et justement aussi sur la circulation de façon pirate, j'ai remarqué aussi que dans cette collection en particulier, c'est l'autrice qui choisit le prochain ou la prochaine auteur ou autrice.
Ça, c'est le projet.
C'est le projet.
On ne va pas spoiler la suite.
Moi, je l'ai trouvé sur Internet.
Non, c'est effectivement ce que j'ai écrit et j'espère que c'est exactement la manière dont marchera la collection.
Parce que c'est aussi une manière de contourner la validation éditoriale habituelle.
Donc, oui, et de contourner aussi la surcharge de travail qui consiste à travailler sans cesse gratuitement. Disons qu'on peut. Moi, je suis réellement intéressée par le travail éditorial, mais je suis beaucoup plus intéressée par mon propre travail. Et donc, c'était aussi une façon. Et je me suis dit que probablement tout un tas de gens étaient concernés par ces questions. Tout un tas de gens aussi avaient envie de faire exister un certain type de texte qui n'avait pas. C'est la même chose que je fais avec la revue C'est les vacances, c'est-à-dire d'essayer de faire se trouver des auteuristes avec des lecteuristes et de créer des endroits qui ne vont pas nécessairement de soi, où il ne va pas y avoir une ligne éditoriale qui est le fruit d'un choix bien défini en amont. 10 ans auparavant, mais des aléas, des rencontres affectives, politiques, des préoccupations,
Et du coup, tu vas suivre l'autrice ou l'auteur que tu vas choisir après toi, ou c'est quelqu'un d'autre qui le fera sur le travail éditorial,
c'est-à-dire j'écris une postface pour le texte suivi. Après, moi, je suis assez... La maison d'édition serait peut-être pas d'accord avec moi, donc je mets un disclaimer là, je parle en nom propre. Moi, je suis assez du genre à, on m'envoie un texte, il est écrit et on va pas retoucher. C'est-à-dire, du coup, il n'y a pas un travail éditorial, il y a un travail plutôt de postface, et ensuite la personne entame son travail éditorial comme elle l'entend. Je ne demande pas à ce que mon délire de confiance ou de chacun mène son projet littéraire ou politique ou les deux de la façon dont il l'entend, mais en tout cas pour moi c'est important que ça se passe comme ça. Donc oui, c'est trouver l'amorce et embrayer, quoi.
Ok, pour revenir aux vidéos, non seulement il y a toutes ces voix, mais les personnages ou toi se regardent dans les miroirs, se reflètent, se dédoublent. Est-ce que se regarder dans le miroir, se parler à soi à voix haute, fait partie, selon toi, d'un processus de création chez les auteurs et les autrices, en particulier, puisqu'on est censé écouter ses voix intérieures ?
Pour moi, l'enjeu, c'était de trouver une voix déjà extérieure. C'est-à-dire comment s'adresser et comment... J'ai une grosse angoisse des déclarations enregistrées ou écrites. Et en fait, récemment, en ce moment, ça m'arrive tout le temps. Bon, j'imagine tant mieux pour moi. Mais parce qu'il y a une position de domination de fait. Je veux dire, je suis là, j'ai la parole. Donc, il y a une responsabilité dans ce que je dis. Et en fait, mon travail, en général, porte ce questionnement sous-jacent de trouver des voies qui soit responsable d'elle-même, quoi, et qui ça veut pas, enfin, parce que la question de la voix, en fait, parce qu'après il y a l'autre biais qui est le monolingue intérieur, et sur la question plus littéraire de effectivement comment trouver une manière de dire la porosité entre un intérieur et un extérieur, entre des préoccupations extrêmement matériel et proche, et des préoccupations beaucoup plus symboliques ou beaucoup plus politiques et lointaines lointaines. Ça, c'est une phase. Ouais. Bon. Ça se discute, quoi. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de chercher, quoi. De chercher comment trouver une voie extérieure qui soit. En fait, c'est le discours indirect libre. Et voilà. Ça n'y a pas de fin à ce que je dis là.
Oui, je vois, un peu comme dans tes vidéos. Tu dis dans tes vidéos, enfin que tes vidéos sont des variations de tes personnages. C'est assez troublant parce que dans les vidéos, c'est toi tel que tu es face à nous aujourd'hui. Ou peut-être que tu es un personnage, je ne sais pas. Tu modifies peu l'intonation de ta voix, un peu blasée, défaite, mais tenue. Tu changes pas trop d'apparence, t'es reconnaissable. Finalement, tous ces personnages, on pourrait tous les confondre. Alors, c'est quoi pour toi la différence entre personne et personnage ?
Bah, je sais pas. Ouais. En fait, c'est le pro, en tout cas, en fait, c'est une question de densité, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est là où j'en suis en ce moment, c'est-à-dire que de fait, une personne peut être le vecteur d'un storytelling là où un personnage a une sorte de vérité des événements et des c'est-à-dire c'est le truc de Anna Karina le machin là de Umberto Eco. La réalité du personnage, elle est immuable. On peut dire des choses vraies sur un personnage, on peut dire que des choses fausses sur une personne. Et la question, elle est de faire s'interpénétrer les troubles de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, pour faire quelque chose, quoi. Mais c'est toujours ce même truc de la voix, des voix, enfin de la multiplicité des je suis multipiste, quoi.
Ouais, t'es multipliste.
Voilà.
Dans ton travail, on retrouve plusieurs fois la présence de Virginia Woolf, surtout sa période chef-d'œuvre. Mrs. Dalloway, Orlando, To the Lighthouse. Qu'est-ce qui t'inspire autant chez Virginia ?
En fait, c'est plutôt qu'il y a, dans mon travail de manière générale, une petite propension à la citation qui se cache pas, et aussi de se mesurer, enfin de j'ai, oui, je cite beaucoup, c'est-à-dire l'extrait qu'on a entendu, c'est un espèce de mix de sauce entre moi, un peu des bouts d'interview de Duras, un peu, enfin bon, je fous un peu tout sur le même plan.
Jeanne Moreau.
Oui, voilà, la chanson, le truc, la rumba des îles, quoi. Et en même temps, je réécris et je pervertis les passages. C'est-à-dire, je change des mots. Finalement, ça ne dit pas tout à fait la même chose. C'est toujours des endroits où, en fait, je peux voler ce qui est dit et le transformer. Alors, du coup, pour répondre à Virginia Woolf, pour des raisons, parce que pour l'instant, j'ai rien lu de mieux. En fait, en tout cas, dans ce qui me préoccupe moi. Et après, sur cette question aussi de de coller à son jeu. Et Duras et Virginia Woolf sont des bons exemples de gens qui collent à leur jeu, qui, quel que soit, c'est-à-dire même le pire de ce qu'elles ont dit, elles ont dit des choses, ça se pose jamais comme une vérité générale, ça vient jamais enrichir un système. Elles sont là avec un jeu ultra situé pour le coup. Après, problématiquement ou non, etc. Mais en tout cas. J'ai vu une interview de Duras il n'y a pas très longtemps où elle dit, en gros, si on dit n'importe quoi, tant pis pour nous, on n'avait qu'à savoir et on doit assumer la responsabilité de ses actes et ne pas chercher à se blanchir. On n'avait qu'à savoir, on n'avait qu'à être là, on n'avait qu'à être au courant, quoi. Et j'aime bien ça, quoi. On n'avait qu'à savoir. Genre, tant pis pour toi si tu... Et je trouve, chez Virginia Woolf, il y a ça aussi. Cette question, elle est aussi prise en charge tout en étant, sur le plan poétique et littéraire, une sorte de... horizon à atteindre.
Pour la prochaine édition du Salon de Montrouge, tu travailles à une performance qui porte sur le personnage de Lily Bresco. Lily Bresco, c'est un des personnages de To the Lighthouse, Voyage au phare, de Virginia Woolf. C'est une peintre, une vieille fille étriquée, maussade, acariâtre, desséchée, sur une pelouse, un pinceau à la main. Pourquoi te saisir aujourd'hui de ce personnage ?
Je ne sais pas trop, je trouve que ça me définit bien, mais... en fait, Lily Bresco, c'est une longue histoire. La première fois que j'ai lu La Promenade, en fait, déjà, j'ai essayé de lire La Recherche du Temps Perdu. J'ai commencé, puis j'ai relu La Promenade au phare et je me suis rendu compte que La Promenade au phare me semblait être une sorte de version très accélérée plus pertinente de la question que ce qui est développé dans La Recherche, dans beaucoup, beaucoup de pages. Et Lily Brissot qui se met à peindre à la fin. Non, elle se met pas à peindre, en fait, elle a putain de fini sa peinture. Bon, moi, ça me plaisait, ce truc de... Elle finit sa peinture. Le rapport avec Mrs. Ramsay, avec la famille, le fait d'être de se poser en observatrice, d'être merdique, d'être un personnage qui n'a pas de relief, qui est moyen, qui n'a aucun intérêt et qui, pourtant, dit quelque chose de... Je sais pas, moi ça m'émeut en fait, les gens. Enfin, c'est vraiment quelque chose auquel je peux m'identifier. C'est vraiment un personnage auquel je peux m'identifier parce que c'est un personnage un peu dont l'épaisseur se situe dans sa moyenneté et dans le fait que s'il y a quelque chose de si elle peut quelque chose, c'est juste faire ce qu'elle fait. Enfin, Virginia Woolf dans Orlando dit pourquoi ne pas simplement dire ce que l'on veut dire et en rester là, l'herbe est verte, le ciel est bleu. Eh ben Lily Brisco vit sa vie comme ça. Elle peint et elle est une vieille fille et elle accepte ça. Et elle accepte qu'elle ne soit pas non plus tout à fait que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette question de personnage, personne, vie intérieure, faire avec le contexte. Bon, en l'occurrence, la figure de Lily Brisco, ça me permet aussi de développer sur cette question qui me préoccupe de personnage, personne, storytelling, idéologie, roman. Voilà.
Ok. T'as une question, Yannick ? Merci, Eugénie.
Merci à toi.
Après deux tentatives de suicide ratées, Virginia Woolf parvient à mettre fin à ses jours. Elle se noie dans l'Ouse. Le 28 mars 1941. Bonjour Mathieu Blond.
Bonjour.
Anon,
oui.
Le travail que tu vas nous présenter est une collaboration avec l'artiste Simon Asensio. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, alors je vais le présenter. Simon Asensio est né en 1988. Il vit et travaille entre Bruxelles et Marseille, où il enseigne aux Beaux-Arts. Ça fait depuis 2019 que Simon Asensio travaille autour du projet Anon, la dernière œuvre de Virginia Woolf, qui demeurera inachevée. Il faut savoir que c'est une œuvre ovni. Le livre « Entre les actes » et « Anon » annonce dans le travail de Virginia une nouvelle étape dans sa création littéraire. Juste avant sa mort, Virginia s'intéresse à d'autres formes que le roman. Elle s'intéresse au théâtre, à l'essai, aux personnages costumés et même à la radio. C'est cette partie de l'œuvre moins instrumentalisée qui intéresse Simon Asensio. Anon, c'est un texte qui met en mouvement celui qui s'y colle. En 2020 déjà, lors d'un festival de performance à Bruxelles, Simon Asensio avait imprimé le texte de Anon sur un drap de plusieurs mètres carrés, qu'il avait disposé sur le sol. Avant d'entrer dans l'espace, il invitait le public à enfiler des dossards sur lesquels étaient inscrits les noms des personnages de Anon, Excalibur, King Arthur, Shakespeare, etc. En fait, l'ambition de Virginia, c'était de réécrire une histoire de la littérature anglaise dans Anon. Dans sa performance, Simon invitait le public à prendre place sur le texte imprimé, en tailleur, allongé, à quatre pattes, et faisait une lecture collective. Voix grave et aiguë, accent du monde entier, lisez ensemble Anon, polyphonie. Par la suite, le projet a continué à évoluer. Simon Asensio s'est aperçu que le texte n'avait jamais été traduit en français. Et c'est là qu'il a commencé à partir à la recherche du manuscrit de Anon, avec pour objectif le traduire en français. Simon Asensio a parcouru des kilomètres pour mettre la main sur ce manuscrit dispersé dans différentes collections du monde entier. Une partie du manuscrit se trouve à Brighton, à la Monk House Papers. Une autre est à la collection Berg, à la New York Public Library. Et enfin, les carnets de notes de Virginia sont à la BNF. En plein milieu de la nuit, j'ai appelé Simon Asensio. Allô, Simon ? Qu'est-ce que ça te fait quand tu es face au manuscrit de Hannon ? Il m'a répondu. Je sens qu'il est hanté. C'est très intime de fouiller dans les archives de quelqu'un. Tu rentres dans la tête de Virginia. Ouvrir le manuscrit, c'est le début d'un travail sans fin. Il y a un tas de corrections, de couches, d'allers-retours. Voilà la règle que Virginia s'était fixée. Lire abondamment et écrire de mémoire, c'est son processus de travail. Là, j'ai compris que ça allait me rendre dingue, parce qu'il y a une forte dimension intertextuelle dans Hannon. Une phrase est composée de 5 autres, écrites par des auteurs médiévaux. Elle paraphrase, elle bricole. Il faut comprendre d'où ça vient. Parfois, j'ai l'impression de déranger Virginia. J'ai l'impression qu'elle veut que j'arrête. Il m'est arrivé de perdre des clés USB avec des sauvegardes du manuscrit. Il m'est arrivé de prendre des photos et qu'en rentrant chez moi, ma carte SD soit vide. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, veut-elle que j'arrête le processus ? Il y a un blanc. Simon Asensio reprend, il me dit.
L'ambiance est bizarre. Il y a des chèvres dans le jardin de la BNF.
Des chèvres ? Attends, j'ai lu dans une préface que les parents de Virginia l'appelaient Ginia, la petite chèvre, tant elle aimait crapahuter dans la montagne.
Eh bien, c'est bon. Elle est là, en face de moi. Elle mange du papier.
On éclate de rire. Elle mange son propre manuscrit pour que tu arrêtes le processus. Elle ne veut pas que son livre réapparaisse ou que tu fasses de l'art avec. Elle ne veut pas qu'il fuit, qu'il déborde. Bon, quand est-ce que je pourrais lire des extraits de cette traduction, Simon ?
J'en ai publié une partie dans la revue Journal de Mathieu Blond.
On raccroche. Je me dis, super, demain, je vais m'en fournir un exemplaire. Mais en regardant sur Internet, je comprends rapidement que pour avoir accès à Hannon, il faudra que j'attrape Mathieu Blond. J'ai attrapé Mathieu Blond.
Bienvenue à Journal hors série. Hannon, lire au hasard ou tourner la page. Texte, Virginia Woolf. Collecte, assemblage et traduction, Simon Asensio. Page 1. 18 septembre 1930-40. Note pour lire au hasard ou tourner la page. Commencer par le pays d'Angleterre, avant Elizabeth. L'influence du territoire sur les écrivains. Hall, Holingshed. L'idée du livre est de trouver le bout d'une pelote de fil et de la dénouer. Laisser un livre, en suggérer un autre, s'en tenir à la chronologie. Passer de la critique à la biographie, la vie des gens. Toujours suivre l'odeur véritable, l'idée du moment. Aucune période, pas un manuel scolaire. Lire abondamment, écrire de mémoire. 3 octobre. La vie d'un livre. Prendre un livre vivant et sa trace, son évanouissement, sa disparition, sa famille. Mais quel livre ? Mais rester très libre. Harrison et l'État anglais, l'Angleterre. Son mastiff, les mois en R. Combien de départements une personne possède, contient ? besoin d'historiens, de psychologues, de poètes, etc. pour l'interpréter. L'effort s'exerce sur H, Harrison, son attitude envers la cour, l'église, etc. L'église. Il s'agit de continuité. Harrison vu par Funival, ce que F. Funival a payé pour du beurre en 1878. L'infection, également le support. Le bout de chanson. Si j'étais dans mon château de Beauvely. L'instinct de la chanson, le plan de Londres, Alfred Tennyson. Monsieur George Henry Lewis avait suggéré une réunion en mars à Gower Street, à 8 heures. Il s'agit de continuité. Certaines émotions toujours présentes, toujours ressenties par les gens. Pour le 19e siècle, Augustus Hare. Sa mère. Scène illustrant le sujet d'Henry James. Osbert sur deux générations. Sitwell rencontre Hare. Page 10. 1. Anon. 2. L'oreille et l'œil. 3. L'individu. 3. Le public. 4. Les mots. Juste un point ici au niveau du texte. On suppose avec Simon Asensio que cette note préparatoire au roman est potentiellement le sommaire du projet de lire au hasard ou tourner la page. Anon aurait donc été la première partie ou le premier chapitre ou le premier livre de ce travail beaucoup plus important. Page, Morgane Lafay. Page numéro A. L'historien nous raconte que durant de nombreux siècles, après que l'Angleterre soit devenue une île, la forêt vierge était reine. Il continue. Entrelacés dans les branches, des millions d'oiseaux chantaient en chœur. Seuls quelques glabres chasseraient s'y prêtaient l'oreille. Mais il fallut qu'on abatte l'arbre et que la cabane soit dressée de ses branches et que la plaine s'étende avant que la voix humaine se mît elle aussi à chanter. Les premiers chants étaient des chants d'extérieur, des chants de printemps, des chants d'été, des chants d'hiver. Page 9. De Duncan et Vanessa, hier j'ai eu cette idée. Un livre expliquant la littérature depuis notre point de vue commun. Ce serait alors sous l'angle... ça commencerait par l'angle des écrivains. C'est-à-dire, nous ressentons tous et toutes l'envie de créer, la curiosité de connaître d'autres personnes dans la même condition. Cela nous mènerait à une introduction sur le germe de la création. Ses contrariétés, notre société, les interruptions, les conditions. Mais peut-on alors voir les autres dans la même situation ? Je devrais prendre un poème et construire autour la société qui le permet, qui l'engendre. Je devrais prendre un très vieux poème, Anon, anonyme, et distinguer les différences de contexte. Le temps, la maison, la mécène, la société. La maison, le patron, la société, de manière chronologique. S'égarer régulièrement, inclure le latin, italien, grec. L'universalité de l'instinct créatif. Pierre, laine, mots, peinture. Toujours discuter des mots. Garder l'écrivain au premier plan. Faire un plan approximatif des différentes aides et obstacles. Une esquisse, une supposition. Le mécène. La fille à la porte. Le vent et la pluie. Faire évoluer la ville, la grande maison. Peupler l'Angleterre de gens. Prendre des exemples autant de l'art que de la pression sociale. Puis augmenter le nombre de personnes. Décrire la croissance de Londres. La petite ville de campagne. Le public au théâtre au coin du feu. Continuer le commentaire sur l'externalité, le moderne, la croissance articulée, la séparation en plusieurs langues pour les écrivains, les publicités, les critiques, voyager, la société, faire une esquisse du 19e siècle, la société. B, page B. Between merch and have will when spray begin to spring. The little fool hat high will and high little thing. Summer is hickman in, little thing cuckoo. By a bank as I lay musing myself alone. Hey, oh, a birded voice did me rejoice, singing before the day, and me so in a lay. She say, winter was past, ho! Oh. Juste un point ici. Pour le moment, on a gardé le texte original, qui est une chanson faite à partir de différents fragments de poèmes et de chants du Moyen-Âge anglais, qui sont tous des textes anonymes, que Virginia Woolf a recomposés afin de produire ce nouveau chant, ce nouveau poème. Ce principe de réassemblage de textes anonymes pour la construction du livre, on le retrouve dans l'ensemble du roman Anon, ou dans les fragments qu'on a trouvés actuellement. Page D. Les premiers chants étaient des chants d'extérieur, car il n'y avait aucun confort à l'intérieur, peu de lumière et aucun livre. La voix qui brisa le silence de la forêt était celle d'Anon. Elle n'avait aucun nom. On l'entendit et on s'en souvint, car elle fut plus tard soigneusement couchée sur parchemin. Anon avait son auditoire, mais la foule était si peu intéressée par son nom qu'il ne sembla pas nécessaire de le donner. L'émotion du chant d'Anon était partagée par tous. Anon chantait « car le printemps est arrivé » ou « que l'hiver s'en est allé », « car l'amour, la faim, le désir ou la joie l'animaient » ou « pour honorer une ancienne divinité ». Chacun, chacune partageait son émotion et connaissait par cœur la vieille ballade de la jeune fille. Anon est quelquefois homme, Anon est quelquefois femme. Anon est la voix commune qui chante en plein air. Anon n'a pas de toit, allant à travers champs, gravissant les collines, s'étendant sous l'aubépine pour écouter le rossignol. Anon est vagabonde. Anon a l'œil vif et connecté. La vue est encore un jeune sens. C'est celui du corps, de la couleur, de la substance, plus que de l'esprit. C'était Journal hors série, Anon, lire au hasard ou tourner la page. Texte, Virginia Woolf. Collecte, assemblage et traduction, Simon Asensio. C'était la maquette numéro 3, impression numéro 1 sur Mathieu Blond, le 9 septembre 2023 à Festival Extra, Centre Pompidou, place Georges Pompidou, 75004, Paris. Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires ou si vous souhaitez commander une autre publication performée, vous pouvez nous joindre à l'adresse mail suivante contact@revue-journal.com. Merci.
Merci. Rebonjour Mathieu Blond. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, tu es performeur, chorégraphe, architecte. Peux-tu nous présenter le projet Journal ? Depuis quand il existe ?
Oui, du coup, Journal a été créé en 2017 et à la base, c'est une revue dans laquelle j'invitais 7 personnes à composer des articles Comme vous avez pu voir là, les articles, ça peut être de la voix, ça peut être de la chanson, ça peut être des gestes, ça peut être des danses, des actions. Du coup, ces personnes me les transmettaient et ensuite, moi, je venais performer la revue chez les gens, mais aussi dans des lieux publics, à l'extérieur, ou voilà, un peu partout. Du coup, à la base, c'était cette revue et après, il y a eu un peu des dérivés. Il y a eu des éditions spéciales en lien avec des événements. Il y a eu des nécrologies pour honorer des artistes ou des personnes qui étaient récemment décédées et qui me tenaient à cœur. Et avec ce projet de hors-série, c'est un peu une nouvelle partie qui commence. Et c'est notamment une collaboration avec Simon Asensio qui est venu me voir pour éditer cette traduction française à travers ce projet de performance.
Donc pour ce projet, ton corps est une sorte de banque babylonienne à performance. Ça te fait quoi de porter Anon en toi ?
Il faut peut-être juste préciser que le projet Anon est encore en cours d'édition, si on peut dire ça comme ça. Simon a fait une première traduction, il est encore en train de faire des réajustements et on est encore en train de voir comment le mettre en page, d'une certaine manière, on pourrait dire. Parce que là, j'étais à la table, c'est une des variantes du projet, mais normalement, j'ai une couverture avec moi qui me sert d'accessoire. Et je suis plutôt à me balader dans l'espace. Et c'est vrai qu'il y a des gestes, des actions qui ont été ici très réduits à la table, mais normalement qui prennent beaucoup plus l'espace, des danses, des choses comme ça.
Non, mais c'est vrai que c'est une découverte assez extraordinaire parce que ce texte d'Anon, qui n'est pas un livre, qui est un projet complètement fou, complètement kaléidoscopique, finalement, vous lui rendez hommage en ne l'enfermant pas dans une structure achevée, en lui donnant cette structure ouverte, totalement performative et évolutive, quoi.
Oui. Après, c'est vrai que on a déjà eu un premier temps de travail avec Simon et on a au début eu un peu cette ambition de trouver la narration, du coup à partir des paragraphes, d'essayer de donner l'histoire à entendre, ce qui en fait a sonné très un peu faux, parce que justement comme tu dis, le projet il n'est pas abouti et qu'il manque beaucoup trop de passages ou beaucoup trop de choses. Et ce que me faisait aussi remarquer Simon, qui travaille beaucoup autour de la figure du troubadour, c'est que dans cette poésie là il y a beaucoup de choses où on va toucher les éléments qui sont autour pour faire émerger le sujet. En fait, on ne va pas directement adresser le sujet, mais par des biais, le sujet va apparaître. Et en fait, c'est pour ça qu'on a choisi de rester sur une forme fragmentaire, où on a trois folios différents. On a les notes préparatoires, qui sont 20 pages, notées de 1 à 20. On a un deuxième folio qui correspond aux paragraphes que Virginia Woolf a commencé à écrire, qui sont des pages alphabétiques A, B, C, qui sont encore en cours de traduction par Simon. Et on a décidé de rajouter un troisième folio qui incarne différents personnages qui sont évoqués dans le texte. Donc là, vous avez pu entendre Morgane la fée, mais qui sont plus des actes performatiques pour un peu donner du corps à ce que semble évoquer Virginia Woolf. Voilà.
Je voudrais revenir sur ta formation. Tu as fait une école de danse, chorégraphie, performance à Amsterdam, la SNDO. Selon toi, est-ce que le fait d'être dans un contexte international où plusieurs langues sont parlées participe à modifier, remodeler, réinventer, repenser les formes de nos pratiques artistiques ?
Oui, en partie. Je pense que de toute façon, tous les gens qui parlent plusieurs langues voient la richesse que c'est de passer d'une langue à une autre. Quand moi je suis parti étudier à Amsterdam, je parlais très très mal anglais et petit à petit ça a été un peu une découverte de la langue, mais qui était aussi en lien avec une découverte de l'apprentissage de la danse ou du corps, de la chorégraphie. Du coup c'est vrai que mon utilisation du corps passe beaucoup par des mots anglais ou des principes ou des choses qui sont plutôt dans ce contexte-là. Après, quand je suis revenu plus tard en France, j'avais l'impression que il fallait que je me réadapte à cette langue française qui est à la fois très belle et qui a ses spécificités. Et notamment une, c'est de genrer tout et n'importe quoi. ce qui en anglais est assez nous libère un peu de cette question-là. Et notamment sur le texte d'Anon, c'est une vraie question. Parce que comme elle le dit dans la page D, Anon, c'est quelquefois un homme, quelquefois une femme. Mais Anon, pour Virginia Woolf, c'est aussi la possibilité d'être un pluriel, d'être le cœur qui chante, d'être le collectif, d'être le commun. Et du coup, ça nous pose beaucoup de questions pour comment genrer Anon. Du coup, c'est aussi un des lieux de l'étape de traduction pour Simon actuellement. Parce qu'on se demande si on utilise le YEL, mais qui paraît dans une anachronique ou dans un autre qu'on pourrait aussi assumer, ou est-ce qu'on utilise le L, parce qu'à plusieurs moments Virginia Woolf a parlé du L ou de féminin comme toujours une littérature en devenir ou qui a été cachée ou qui a été cachée, dévalorisée alors qu'elle a été présente, mais aussi, il y a cette question du pluriel qui est là. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'éléments de traduction qui... Mais je crois que je m'éloigne un peu de la question. Non, ça
non,
va
non, non. est-ce que vous avez imaginé une suite pour le projet avec Simon?
Déjà, en fait, l'objectif, c'est de publier l'entièreté du manuscrit qu'a traduit Simon.
Sous forme de performance.
Sous forme de performance, ouais. Mmh. Du coup, l'idée de... Parce que là, on a fait une première fois où on a essayé de mettre tout le texte en une performance et on arrive facilement à 1h30, 2h. Du coup, l'idée, ce serait plutôt de tirer au hasard des pages à chaque représentation et d'avoir seulement un morceau ou un fragment de cette publication. Mais à quelques occasions, ça vaudrait le coup de faire entendre l'ensemble du texte, mais je pense que cette question de fragmentation est assez nous plaît beaucoup avec Simon.
Merci, Mathieu et Eugénie.
Merci.
On va terminer sur la voix de Virginia.
Words, English words, full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is... You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity. It is part of other words. Indeed, it is not a word until it is part of a sentence. Words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas.